Vous écoutez France Culture.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En France, depuis quelques années, les références au pragmatisme se multiplient. Longtemps mésestimé ici, ce courant philosophique américain, spécifiquement américain, prend désormais une place centrale en philosophie, mais aussi et surtout peut-être dans les sciences sociales. La publication simultanée de livres classiques d'un des auteurs phares de ce courant philosophique, John Dewey, ainsi que d'un essai de Jean-Pierre Cometti, nous donne aujourd'hui l'occasion, à la suite dans les idées, de faire le point. Mais avons un bref écho d'actualité à propos des best-sellers en sociologie, si tant est que cela existe et ne ressemble pas véritablement à une sorte d'oxymore. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, un grand sociologue américain, Herbert Gans, avait mené une enquête pour essayer de voir quels étaient les livres publiés aux États-Unis par des sociologues professionnels qui étaient devenus ce qu'on appelle des best-sellers. Il en avait dégagé un certain nombre d'enseignements, à savoir le premier et le plus important, c'est d'abord que peu de livres de sociologues professionnels deviennent des best-sellers et que parmi toutes ces listes qu'il avait observées et qui couvraient plus de 50 ans de publication, le seul titre à avoir dépassé le million d'exemplaires vendus, sorte de disque d'or des livres en sociologie, était le classique de David Riesman, Nathan Glaser et Ruel Denny, La foule solitaire, The Lonely Crowd, seul livre à avoir dépassé la barre du million. On trouvait ensuite deux livres qui avaient dépassé les 500 000 exemplaires vendus, Tally's Corner de Liot Libo et The Pursuit of Loneliness de Philip Slater. Et ensuite, 53 livres seulement de sociologie avaient vendu plus de 50 000 exemplaires sur cette période de 50 ans aux États-Unis. Et bien aujourd'hui, trois autres sociologues, tous enseignants et étudiants à l'université du Minnesota, ont essayé de refaire l'enquête de Gans. Alors, ils n'ont pas réussi exactement à produire des données de la même manière parce que les façons de compter le nombre d'exemplaires vendus ont changé. Néanmoins, ils parviennent à des résultats intéressants et pas forcément tellement encourageants. Même constat d'abord que les livres de sociologie ne font que très rarement des best-sellers, et même constat à propos des domaines qui sont ceux des best-sellers en sociologie, à savoir les questions raciales, surtout aux États-Unis, les questions de famille, les questions d'enfants, auxquelles il faut ajouter les livres sur les médias. C'est l'une des nouveautés de cette enquête. En fait, un seul best-seller se dégage véritablement de cette nouvelle liste proposée par ces chercheurs. C'est le livre La culture de la peur, un livre qui a connu un grand succès public, et sans doute peut-on estimer que si ce livre a à ce point marché, le livre de Barry Glasner, The Culture of Fear, c'est parce qu'il était amplement cité dans le documentaire sur Bowling for Columbine, qui parlait de cette façon d'analyser la peur aux États-Unis, documentaire de Michael Moore. Voilà, sinon, quelques autres livres, en particulier de Michael Eric Dyson ou de Dalton Conley, des auteurs qu'on ne connaît pas véritablement en France, qui sont assez peu traduits. Ce qui frappe, c'est à quel point des livres qui parlent de sociologie, mais qui ne sont pas le fait de sociologues professionnels, comme par exemple les livres du physiologiste Jared Diamond, ou des livres de journalistes comme Michael Pollan ou comme Barbara Ehrenreich, obtiennent des succès, et les auteurs nous disent après tout, pourtant, ce sont des livres qui ne sont pas si différents que ça dans leur ton, dans leur style, dans leur méthode d'enquête, que ceux des sociologues. Voilà, cette étude est publiée dans la revue de l'American Association of Sociology, Context. Elle est disponible en ligne sur le site de Context. Jean-Pierre Cometti, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie à l'Université de Provence. On vous doit des ouvrages consacrés à Wittgenstein, des incursions aussi du côté du territoire littéraire avec des travaux sur Robert Musil en particulier. Mais ça fait déjà très longtemps que vous vous intéressez au pragmatisme américain. Vous êtes l'un des pionniers français, on pourrait dire, en la matière. Pionnier tout simplement parce que le pragmatisme n'a pas eu véritablement bonne presse dans la philosophie française et qu'il a fallu attendre ces 15 dernières années peut-être pour qu'on lui donne un petit peu plus de place. Alors l'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire un point sur ce courant, sa vitalité, son importance, son influence aujourd'hui au-delà même des sphères de la philosophie, puisque paraissent aux éditions Gallimard dans la collection Folio trois textes dont l'un inédit que vous signez, Jean-Pierre Cometti, Qu'est-ce que le pragmatisme, directement publié en poche chez Folio, qui est une présentation à la fois pédagogique et en même temps un véritable essai personnel, un livre que, si j'ai bien compris, vous aviez en chantier depuis un moment. Et puis, en même temps, reparaissent en français des livres qui n'étaient plus disponibles de l'une des grandes figures du pragmatisme, John Dewey. L'un de ces livres concerne les questions de politique et de démocratie, c'est le fameux « Le public et ses problèmes ». Et l'autre concerne le monde de l'art, les mondes de l'art, l'art comme expérience. Ces deux livres paraissent dans cette collection Folio. Vous avez d'ailleurs été l'un des traducteurs et vous avez coordonné même la traduction de l'art comme expérience, tandis que Le public et ses problèmes a été traduit et il est présenté par Joël Zask. Voilà, alors Jean-Pierre Cometti, peut-être on pourrait commencer par se demander pourquoi, d'une part, il a fallu attendre si longtemps pour que ce courant philosophique perce en France, et d'autre part, pourquoi perce-t-il enfin ? Pourquoi se tourne-t-on de plus en plus dans le monde de la philosophie, mais comme je le disais, surtout des sciences sociales, vers les grandes figures du pragmatisme, vers leur méthode ? On va revenir sur ce mot, il est important. Jean-Pierre Cometti.
Oui, mais tout d'abord, je voudrais dire, puisque vous venez de mentionner les trois volumes qui paraissent dans la collection Folio, dire que c'est à Éric Vigne que je dois d'avoir eu l'occasion de republier ces deux traductions qui avaient été initialement publiées chez Farago, ainsi que ce livre, Qu'est-ce que le pragmatisme, qui correspond en effet à des choses que j'avais plus ou moins en chantier. Enfin, je dois dire que Éric Vigne m'a fortement encouragé à le faire, et j'en profite pour le remercier. Bon, les raisons pour lesquelles le pragmatisme n'a jamais eu véritablement la chance ou la possibilité de prendre une importance en France sont évidemment complexes et relativement lointaines. Enfin, le remonte du moins à des choses qui sont assez lointaines. Je signale toutefois que William James, au début du XXe siècle, a tout de même, en raison de l'influence qu'il avait à l'échelon mondial, on pourrait dire, eu le bonheur d'être traduit en français. Nombreux livres de lui ont été traduits, mais ça n'a pas été le cas ni pour Peirce, qui est quand même l'origine du pragmatisme.
Et Charles Sanders Peirce.
Qui est l'inventeur, si on peut dire, si vous voulez, du pragmatisme et de la méthode. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la méthode qui caractérise le pragmatisme. C'est bien Peirce qui a présenté ce courant philosophique qu'il a ainsi désigné comme une méthode. Peirce, donc, ni John Dewey n'ont été véritablement l'objet d'un intérêt en France, et de sorte que leurs livres n'ont pas été traduits, à l'exception de la logique de la théorie de l'enquête, qui avait été traduit dans les années 60 par Gérard Deledal, qui a fait beaucoup d'efforts pour imposer le pragmatisme en France, mais je dois dire avec très peu de succès. Alors pourquoi aujourd'hui les choses sont-elles peut-être en train de changer? Je reste extrêmement prudent parce que j'ai une certaine expérience de tout ce qui a été entrepris en faveur du pragmatisme et qui a rencontré tout de même de très nombreux obstacles. Pourquoi aujourd'hui? Peut-être précisément parce que dans le domaine des sciences sociales, un certain nombre de chercheurs, dont Louis Quéré, par exemple, en histoire, Gérard Noirel, ont été plus particulièrement sensibles à des aspects dans le pragmatisme qui les intéressaient dans leur domaine et en raison des problèmes qu'ils se posaient.
Aux États-Unis, Richard Sennett, ou plus récemment en France, Bruno Latour, mais il y a
oui,
vraiment...
Je parle de la France, bien sûr. Hein. Bon, le cas de Bruno Latour est un petit peu particulier, je laisserai de côté pour l'instant. Mais donc, ce que je voulais surtout marquer, c'est que c'est surtout dans le domaine des sciences sociales que cet intérêt nouveau s'est marqué, ou s'est nouvellement marqué. C'est beaucoup moins le cas en philosophie. Il y a très très peu de gens qui non seulement s'intéresse au pragmatisme en philosophie, mais qui considère que le pragmatisme a quelque chose à apporter sur le genre de problème que les philosophes se posent. Alors, on peut, si vous voulez, essayer de voir pourquoi, mais je tiens d'abord à marquer qu'il y a d'abord cette différence.
Alors, avant peut-être de voir pourquoi, c'est une question complexe, effectivement, mais on peut noter quand même que même en philosophie ces dernières années, et à la suite dont les idées nous en sommes fait l'écho, un certain nombre de travaux sur James ont été publiés par rapport à différents chercheurs.
C'est particulier, si vous voulez, je peux en dire un mot.
Oui, Jean-Pierre Cometti.
Oui, je pense qu'il est significatif. C'est une opinion que j'exprime, elle vaut ce qu'elle vaut. Significatif que un intérêt pour James soit plus particulièrement marqué, plus que pour Peirce ou pour Huey. Et je signale qu'il en a toujours été ainsi. Je faisais allusion tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, aux traductions, aux nombreuses finalement traductions de textes de James qui ont vu le jour en France. Hein. Bon, je crois que c'est un cas particulier parce que ce qui intéresse, me semble-t-il, chez James, dans le contexte philosophique, c'est tout ce qui peut, chez James, entrer en rapport avec des problématiques qui nous sont familières. Et c'était déjà le cas, au fond, il y a à peu près un siècle, avec James toujours, puisque vous savez que bon, il y a eu une correspondance, enfin des rapports avec Bergson, qui bon, laissait entendre, c'était peut-être l'objet d'un malentendu, mais ça c'est autre chose, qu'au fond, James pouvait entrer dans un horizon qui nous était familier, et de telle manière qu'un rapport ou un dialogue se noue. Je constate que la même chose se reproduit. Je ne dis pas ça pour suggérer que l'œuvre de James n'a aucun intérêt, loin de là, bien sûr, mais James se prête plus facilement, semble-t-il, que Peirce ou Dewey a une mise en perspective, a un échange intellectuel, avec, encore une fois, le type de... préoccupation ou d'horizon qui nous est familier en philosophie, je pense.
Comme si, au fond, c'est la part la plus continentale, la plus européenne de James qui rendait possible ces échanges. James qui, peut-être, avait aussi un pied de l'autre côté de l'Atlantique, en tous les cas, dont le frère Henry James a longtemps vécu à Londres. Alors que c'est ce sur quoi j'insistais en commençant cette émission, Jean-Pierre Cometti, le pragmatisme est sans doute la première tradition philosophique spécifiquement américaine. Et l'œuvre de Dewey est absolument centrale pour qui veut comprendre la culture, non seulement la culture philosophique, mais la culture publique américaine du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Mais le point de départ en est chez Peirce, il ne faut jamais l'oublier. Le point de départ réside essentiellement dans ce qu'on appelle la théorie de l'enquête.
Alors justement, je voulais en venir précisément à ce mot et à cette idée de théorie de l'enquête. Peut-être on n'a pas le temps, vraiment en une demi-heure, d'entrer dans les détails du pragmatisme. C'est un continent entier. Mais néanmoins, peut-être on peut s'arrêter sur ce mot enquête, parce qu'il est peut-être l'un de ceux qui est le plus fédéral pour ce courant qui est par ailleurs assez éclaté, il faut le reconnaître, Jean-Pierre Cometti.
Oui, en effet. Oui, en effet. Il s'agit d'un courant qui n'est pas fait d'une seule pièce, où on peut assez aisément le constater de toute manière. Mais en tout cas, il y a en effet quelque chose qui court comme un fil, en tout cas de Peirce à Dewey, par exemple, et surtout de Peirce à Dewey, c'est cette notion d'enquête que l'on doit à Peirce, dans un contexte que nous n'aurons pas le temps d'évoquer, mais enfin qui serait intéressant d'évoquer, parce que ce contexte est un contexte à la fois scientifique et philosophique. Vous savez que, bon, par exemple, le darwinisme est quelque chose qui a beaucoup compté pour le pragmatisme. Donc, il faudrait évoquer ce contexte, mais on peut peut-être s'en tenir à ceci, que l'enquête est d'abord une méthode. Nous avons déjà prononcé le mot tout à l'heure, et Peirce y insistait beaucoup. Donc, une méthode, plus qu'un corps de doctrine ou une théorie, et une méthode qui privilégie les procédures à l'œuvre dans la recherche. Donc c'est déjà quelque chose qui compte. Et de telle manière que, privilégiant les procédures, on privilégie en même temps les effets. Il y a une célèbre définition par Peirce de la méthode pragmatiste qui insiste précisément sur ceci, que tout ce qu'on peut concevoir comme concept d'un objet n'est pas dissociable des effets que peut avoir notre conception sur la conduite. Donc ça, c'est quelque chose qui appartient à la théorie de l'enquête comme méthode, qui s'oppose, si vous voulez, à une conception, c'est peut-être un mot que certains pragmatistes auraient prononcé, statique du vrai, et notamment à cette conception qui conçoit le vrai comme une forme de représentation, d'où le livre, le célèbre livre de Richard Horty sur le miroir de la nature, ou comme adéquation. Bon. Ce qui compte, c'est ce qu'on met en œuvre, les effets que cela produit, et les conséquences qu'on peut en tirer. Donc, il y a de ce point de vue quelque chose dans la théorie de l'enquête qui distingue d'emblée la philosophie pragmatiste de philosophie auquel nous sommes plus communément habitués, et en particulier de toute une tradition, disons-le, métaphysique, que Peirce, le premier Peirce, dans ses premiers textes, a très vigoureusement controversé, si je puis dire, penser à ces textes que sont « Comment rendre nos idées claires », qui sont tout à fait significatifs de ce point de vue, en ce qu'ils mettent par exemple en cause toute la théorie cartésienne du doute et tout un ensemble de choses de cette nature.
Comment rendre nos idées claires? Il y a ce souci aussi dans le pragmatisme du style, d'un style le plus clair, le plus précis possible, assez peu jargonnant au fond,
oui,
qui tranche avec d'autres traditions philosophiques, Jean-Pierre Cometti.
Oui, oui, tout à fait. C'est une philosophie qui... Enfin, Peirce est parfois un petit peu jargonnant, enfin en tout cas pas jargonnant, mais enfin, il y a des concepts, des notions auxquelles il donne des mots qui nous paraissent à nous un petit peu bizarres. Mais enfin, pour l'essentiel, il s'agit d'une philosophie qui, en effet, ne se tient pas pour dépositaire d'un langage qui lui serait réservé. C'est une philosophie qui est ouverte, par définition, à la discussion, donc à l'intelligence commune, et qui, de fait, n'a jamais cultivé quelque jargon philosophique que ce soit. On voit bien, vous parliez de James, c'est peut-être celui chez qui ça soit le mieux, mais d'une certaine manière, chez Peirce et chez Dewey.
Alors ça renvoie aussi à cette... caractéristique démocratique, j'allais dire, du pragmatisme, et en particulier chez Dewey, donc l'un des deux livres qui paraissent dans cette collection Folio, Le public et ses problèmes, est un essai très 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 célèbre aux États-Unis de John Dewey, très important pour la culture politique américaine, dans lequel il exprime sa conception de la démocratie. Comment vous la présenteriez-vous, Jean-Pierre Cometti?
D'abord, sa conception.
Sa pratique, enfin.
Oui, c'est ça, parce que. comment dirais-je? La démocratie est une expérience, on peut dire. Donc, il ne s'agit pas d'une théorie, ni, comme le souligne très souvent Dewey, d'un régime politique parmi d'autres. La démocratie, elle est l'expérience sociale comme telle, ou l'expérience politique comme telle. Et elle repose essentiellement sur ce que Habermas appellerait l'interdiscursivité. Donc l'échange, les interactions, est conçu d'ailleurs à la lumière de l'enquête. Parce que l'un des intérêts de l'enquête, j'aurais dû le mentionner tout à l'heure, c'est qu'elle ne concerne pas exclusivement tout ce qui est de l'ordre des concepts. Si vous voulez, l'enquête, par définition, s'ouvre à toutes sortes de, est ouverte sur toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes éthiques ou politiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'enquête qui est déjà porteur d'une conception, pour reprendre d'autres termes, de la démocratie, mais qui ne conçoit pas la démocratie comme une sorte de choix politique parmi d'autres. La démocratie, elle est l'expérience politique comme telle.
Alors, ce livre est donc désormais disponible facilement, oui, en poche, présenté par Joël Zask. Et puis, il y a un deuxième livre de Dewey qui paraît, L'art comme expérience, qui, lui, présenté par Richard Schusterman, qui est un philosophe qu'on pourrait dire néo-pragmatiste à bien des égards.
Oui,
qui
avait tout à fait, pragmatiste
qui
se réclame ouvertement du pragmatisme.
Qui avait publié ce très très beau livre que je citais la semaine dernière, encore à la suite, dans Les idées, l'art à l'état vif, sur une esthétique pragmatique. Oui. C'était au début des années 80. 90 chez Minuit.
Il y a déjà un certain temps.
Où il travaillait sur à la fois la poésie de T.S. Eliot et une forme d'expression nouvelle autour du rap, de la musique, du graffiti, de la danse, du hip-hop. Et donc... Schusterman présente ce volume. On a aussi une postface qui nous éclaire un petit peu sur l'importance qu'a eu la réflexion de Dewey sur l'art dans le monde de l'art lui-même.
Oui, c'est une chose qu'on ne soupçonne pas, en effet, et que, dont on ferait bien de prendre acte lorsqu'on s'intéresse à certains courants artistiques américains.
Alors ça c'est frappant parce qu'il y a en France toute une critique artistique qui évidemment s'est développée autour de l'art américain et dont on se rend compte qu'elle n'avait même pas idée des soubassements philosophiques au fond.
C'est très 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 étonnant, oui, si vous voulez bien je veux bien en dire deux mots.
Oui, bien sûr, Jean-Pierre Cometti.
C'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Le rapport que nous avons eu jusqu'à présent en tout cas à l'art américain, qui se concentre, comme tout le monde le sait bien et le voit bien, c'est toujours concentré sur l'expressionnisme abstrait. Bon. À travers une vision, on peut en avoir, certes, mais qui est relativement amputée, en ce que précisément, elle ne tient pas compte de tout ce dont l'expressionnisme abstrait s'est nourri dans les faits, si je puis dire, et non pas dans l'idéologie qui s'est développée autour de ce courant, et qui vient en partie du pragmatisme. Et on peut penser non seulement à ce qu'on peut lire en effet dans la postface de l'édition française en folio de l'art comme expérience par Samuel Butler, mais aussi quelque chose qui manifestement n'a pas beaucoup retenu l'attention des gens qui s'intéressent à l'art en France, y compris de ceux qui se sont intéressés aux avant-gardes, c'est le Black Mountain College. On oublie d'une part l'importance que cette expérience qui s'est développée au sein du Black Mountain College autour de figures extrêmement significatives, comme Cage, Rauschenberg, Greenberg lui-même a fait partie, enfin a été un moment au Black Mountain College. Donc ce que l'art américain postérieur, celui qui correspond à la période de l'expressionnisme abstrait, doit à ce qui s'est conçu, expérimenté, surtout au sein de Black Mountain College. Et je dois dire, pour faire le lien, je dois rappeler que Black Mountain College a été créé dans un esprit qui s'inspirait directement des idées de John Dewey, et notamment de celles que Dewey a exposées dans ce livre, L'art comme expérience, et qui repose, mais complètement... à nouveau frais, comme on dit dans des termes nouveaux, la question de l'art, de l'expérience esthétique, de sa place dans la société, de son rôle pour l'individu, etc. etc.
Vous disiez tout à l'heure à quel point le pragmatisme constituait une sorte de rupture avec la métaphysique. On a, à propos de l'art, le même type de rupture avec, je dirais, la façon dont nous avions, ou dont nous avons encore peut-être l'habitude de regarder les œuvres d'art.
Je crois que je reviens un tout petit peu à ce livre, L'art comme expérience, et à tout ce qui peut être associé à cela. Il y a au départ, point de départ de ce livre, l'idée que l'art occupe dans nos esprits, dans nos sociétés, une position séparée, à part. Et que c'est cette position qui est la source de toutes sortes de malentendus. En ce qui concerne la signification de l'art, en ce qui concerne le rôle ou les fonctions que nous lui attribuons. Bref, en ce qui concerne grosso modo non seulement tout un ensemble de théories de l'art, mais également la représentation commune. Celle qui s'inscrit jusque dans notre langage, dans ce qu'on pourrait appeler la grammaire du langage artistique.
Je voulais aussi préciser, Jean-Pierre Cometti, que vous avez publié il y a quelques mois un recueil d'essais sur l'art et sur la philosophie de l'art qui s'appelle La force d'un malentendu, essais dans lesquels vous revenez longuement sur Dewey aussi, et également sur d'autres philosophies de l'art américaine, notamment celle de Goodman ou celle de Danto que vous opposez à la tradition de Dewey, jusqu'à quelqu'un à qui vous dédié votre livre « Qu'est-ce que le pragmatisme ?», qui est Richard Rorty, grande figure de la philosophie américaine, disparu il y a peu de temps, et qui a été probablement la dernière grande figure jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis de ce pragmatisme.
Oui, deux choses en effet. D'abord, le livre que vous venez de mentionner, « La force de malentendu », Il s'agit d'un livre qui a pour point de départ ce statut séparé de l'art auquel je faisais allusion tout à l'heure, et qui s'efforce précisément de décrire, enfin en tout cas de décrire et d'analyser toutes les conséquences qui sont liées à cela dans la philosophie de l'art. Alors la nôtre, celle qui nous est familière, celle qui par exemple s'inspire ou s'inscrit dans le courant de la phénoménologie, ou alors même de la philosophie analytique, largement préoccupée par les temps qui courent ces derniers temps, par des questions touchant à la définition de l'art, par la question d'ontologie de l'art, qui se démarque très nettement de ce qu'avait été le courant pragmatiste, jusque chez des auteurs qui ne s'en réclamaient pas explicitement, comme Nelson Goodman, que moi j'ai tendance à considérer comme un philosophe pragmatiste, dans la mesure où... au cœur de sa philosophie de manière très simple, ce qui l'intéresse, c'est la façon dont l'art fonctionne et non pas dont l'art est. Bon, ce qui est une idée qu'on peut très aisément apparenter au pragmatisme. Donc, il y a tout cet aspect des choses qui est assez intéressant et important, me semble-t-il, surtout quand on s'intéresse à la situation actuelle de l'art. On n'a pas le temps d'en parler, mais enfin, je crois que c'est quelque chose d'important. Et le livre, La force de malentendu, est lié à une réflexion sur cet état de choses. Je viens très rapidement à Horthy, qui en effet... le livre « Qu'est-ce que le pragmatisme ?» est dédié. Horthy a été certainement l'un de ceux qui, le plus dans le contexte américain, mais ça s'est étendu bien entendu au-delà, qui a le plus contribué à remettre le pragmatisme au devant de la scène, en tout cas à en montrer l'intérêt, hein, et son intérêt pour John Dewey notamment était très clairement proclamé. Mais au cœur de ce qu'ont été ses préoccupations en philosophie à partir du moment où il a commencé à se séparer de la philosophie strictement analytique, courant auquel il avait commencé à appartenir. C'est une chose qui est très importante. Je signale entre parenthèses qu'un auteur intéressant actuellement, qui réfléchit beaucoup au pragmatisme et aux sciences sociales, Hans Joas, insiste très clairement dans l'un de ses livres sur l'importance qu'a eu, y compris pour le pragmatisme dans les sciences sociales, un livre comme celui de Horthy concernant le miroir de la nature, hein, traduit en français sous le titre « L'homme spéculaire », et qui s'appelait en fait « Philosophy and the Mirror of Nature ».
Merci beaucoup Jean-Pierre Cometti. Si vous entendez de plus en plus souvent parler du pragmatisme et que vous vous demandez ce dont il s'agit, eh bien je ne saurais trop vous conseiller la lecture de « Qu'est-ce que le pragmatisme ?», une bonne entrée en matière et plus que ça, un essai passionnant de Jean-Pierre Cometti qui paraît directement en poche dans la collection Folio chez Gallimard. Et c'est dans cette même collection que vous trouverez deux textes classiques extrêmement importants de ce courant philosophique américain, « Le public et ses problèmes » et puis l'art comme expérience, deux livres de John Dewey. Et je rappelle que nous avons parlé aussi à la fin d'un autre essai de Jean-Pierre Cometti, d'un ensemble d'essais qui paraît sous le titre « La force d'un malentendu » et qui sont publiés dans « Questions théoriques » collection Saggio Casino. Voilà, merci Jean-Pierre Cometti. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Anne-Catherine Lochard, à la technique, Alexandre Dang, à la réalisation, Jean-Christophe Francis. Quelques instants, 12h30, le journal sur France Culture.